Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
J'ai titré le message de ce matin, c'est bien pour terminer bien cette période qui a été diverse pour les uns et pour les autres. On a fait des expériences, même les plus difficiles, eh bien elles ont été couronnées de la bénédiction et de la grâce de Dieu. Moi je tiens à le dire, c'est vrai. Et je le dis avec en toute sincérité, il y a des choses qui sont difficiles, mais avec le recul, bien on s'aperçoit que le Seigneur a été merveilleusement bon avec nous. C'est ce qu'il faut se dire. Alors le titre, j'ai appelé le message que nous allons considérer « Un plan plus que parfait ». Voilà, ça vous va? Oui? Alors on va voir ça. D'abord, dans Luc, on va lire dans l'évangile de Luc, ce sera des courtes lectures, et ensuite on apportera le commentaire de tout cela. Alors, dans Luc, chapitre 2, verset 31. Vous connaissez le personnage, il s'agit d'un vieil homme, il s'appelle Siméon, il est au soir de sa vie et il bénit le nom de Dieu, le nom du Dieu d'Israël, c'est un juif. Alors, chapitre 2 et verset 31, ou verset 29, par exemple. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. C'est le verset 31 sur lequel j'aimerais m'arrêter. Il y a un verbe explicatif et qui introduit notre méditation. Salut que tu as préparé. On va tourner quelques pages en arrière dans notre Bible et je vous invite à lire dans le livre du prophète Ésaïe, alors un autre texte qui revient à celui-ci avec quelques petites nuances. Alors, c'est Ésaïe chapitre 37 verset 26. Dieu s'adresse à Israël. Comme il s'adresse à nous encore aujourd'hui, tant par la bouche de Siméon, dans Luc, ou dans le prophète Ésaïe, et voilà ce que j'ai devant les yeux et que nous partageons. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis, dit Dieu, qu'elles s'accomplissent. Nous nous retrouvons en face de ce verbe, qui est toujours le verbe expression de l'action dans notre langue, dans bien d'autres langues naturellement. N'as-tu pas appris que j'ai préparé? Il est question de préparation. Mesdames, je suppose que pour ce soir, vous avez préparé quelque chose. Pour demain, on a tous des projets que l'on prépare. On ne fait pas ça comme ça à l'improviste, selon l'inspiration du moment. Mais nous avons cette expression de préparation. Dieu dit à Israël, j'ai préparé ces choses. Et je les ai préparées de loin. Et si loin que l'on peut non pas nommer, parce que ça dépasse le temps. C'est préparé de toute éternité. Alors ça nous dépasse. Nous, notre compréhension, elle explose avec tout ça. Mais néanmoins, j'ai préparé ces choses de loin. Je me suis mis à réfléchir un petit peu à ce verbe préparer. On pourrait peut-être le décliner sous différents autres verbes. Par exemple, disposer, mettre en état et en condition de. Cela sous-tend une réflexion préalable. On ne fait pas les choses n'importe comment. Dans préparer, il y a prévoir, c'est-à-dire voir avant pour que dans la réalisation, ça soit, de selon Dieu, plus que parfait. Et puis, c'est concevoir à l'avance. Nous le faisons, nous, en tant qu'humains, dans ce qui est devant nous, dont on ignore complètement notre avenir et notre futur. Et il est dit, mais dès les temps anciens, voilà. Préparer peut avoir un autre sens, ou une extension de ce que nous venons de définir. C'est mettre au propre. Oui, c'est mettre au propre. Et quand il s'agit de la rédemption, quand il s'agit du salut, Dieu voyant son humanité sale, perdue, défectueuse, corrompue, souillée, eh bien, j'ai préparé, c'est-à-dire c'est de mettre au propre. Et là, nous voyons que cette action de propreté passera par le sang de Jésus. Or, vous savez que le sang s'attache pour nettoyer, mais il y a naturellement une autre dimension de compréhension. C'est rendre propre, et il s'agit du plan de salut ce matin. C'est rendre propre une humanité perdue, souillée. Le contraire de préparer, ce serait tout simplement d'inventer, selon les courants du vent, on pourrait dire ça. C'est imaginer à la dernière minute. Mais vous avez remarqué avec moi, c'est bien dit, n'as-tu pas appris ? Et nous savons tous, en tant que chrétiens, que nous savons, que nous avons appris, parce que c'est Dieu qui nous l'a appris. Il n'y a rien de dernière minute avec le Seigneur. Et sans précipitation, il a fallu toute l'histoire de l'humanité pour arriver à Jésus. Il a fallu toute l'histoire de l'humanité qui se coule, qui découle, finalement, à travers les temps, les générations, les siècles, les civilisations, pour arriver non seulement à Jésus, qui vient une première fois sur la terre pour faire l'expiation des péchés, mais qui revient bientôt, et pour nous emmener dans la destination éternelle, c'est-à-dire partager sa gloire dans le ciel. Alors on va méditer tout ça ce matin, il y a tout un programme, hein. Ça va, vous êtes prêts? Vous êtes préparés? Bon, parce que dans préparer, il y a paraît aussi, oui, et paraît, c'est-à-dire que vraiment, hein. Quand on est paré pour la guerre, c'est qu'on a préparé les choses et puis bien d'autres choses. Voilà. Je voudrais simplement dire d'une manière très simple ce matin que le salut, eh bien, vient de Dieu. D'accord? Personne ne contestera, hein. On ne se l'est pas fabriqué nous-mêmes et il a ses repères. Et c'est une préparation et non une improvisation. Vous allez me dire, je joue sur les mots, mais c'est intéressant parce que utilisons notre langue qui est quand même très riche pour justement, eh bien, décortiquer, constituer, bien assimiler, bien comprendre tout ce que cela veut dire. Lire la Bible, voilà, d'un trait sans comprendre ce qui est écrit, ça ne sert pas à grand-chose, hein, mais on va essayer de voir ce que nous inspire le Saint-Esprit à la lumière de la parole. Elle est la trame et le Saint-Esprit la lumière qui nous éclaire. Lire la Bible dans le noir, ça sert pas grand-chose. Par contre, la lumière qui brille, c'est le Saint-Esprit. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Préparation, ce n'est pas une improvisation. Ce salut dira à Siméon que tu as préparé devant tous les peuples. C'est pas seulement le peuple d'Israël, c'est la gloire d'Israël, c'est vrai, dans l'Ancien Testament. Mais c'est une préparation devant tous les peuples, pour nous. Le salut, depuis que Jésus est venu, est un salut universel. C'était pas seulement, eh bien là, cette petite catégorie, cette race, d'hommes, mais devant tous les peuples. Tu l'as préparé devant tous les peuples. La finalité à la perfection. Je n'ai absolument pas à douter de la sainteté, de la perfection, de l'infinité de notre Dieu. Et nous sommes confrontés avec cette finalité ce matin, et non pas au hasard. Parce qu'il n'y a pas de hasard pour nous. C'est pas un accident dans un univers d'accidents qui s'entrechoquent et qui donne naissance à je ne sais quoi. Ça, c'est l'esprit humain déviant. Mais c'est autre chose. Quand l'homme reconnaît sa faillite, moi je l'appellerais sa perdition. C'est l'œuvre que nous menons dans toutes nos églises. Lorsque nous prêchons l'évangile, le but, c'est que l'homme reconnaisse, eh bien, son état, sa misère morale, sa misère spirituelle, et quand elle n'est pas douloureuse physiquement parlant, et peut-être ça peut servir aussi, eh bien, de moyen de réflexion, alors il se tourne, quand l'homme, donc, dans cet état finalement, eh bien, réalise sa faillite. Il se tourne vers un sauveur. Je dis bien indéfini, hein, un sauveur. Dans la Bible, nous trouvons le sauveur. Là, c'est pareil, c'est pas le fait du hasard, hein, non plus. Alors, la Bible nous rapporte et elle nous apprend tout simplement que cet homme-là, ce que nous sommes nous-mêmes et ce que nous avons fait, eh bien, nous échangeons notre péché, notre misère pour le pardon. Nous échangeons notre désespoir de cette vie, de cette existence, pour l'espérance. Et nous échangeons la mort pour la vie. Dans les lois naturelles, eh bien, nous passons de la vie à la mort. Mais dans la perfection du plan de Dieu, nous passons finalement de la vie, non, nous passons de la mort à la vie. C'est l'inverse, ce qui se passe. Puisque tout a été créé par Dieu, donc on l'appelle le Créateur, eh bien, celui qui a imaginé un plan que je nommerai ce matin, un plan solution-remède, plan solution-remède, le problème à sa solution et la maladie à son remède. C'est un plan, on peut dire ça comme ça, où chacun des acteurs a sa place, son rôle, et finalement, quand il est question de sa part, je dirais sa participation. Je joue sur les mots hein, ce matin, hein, mais il y a quand même un sens dans tout ça, hein, et je vais le développer. Chacun des acteurs de cette œuvre céleste et terrestre, eh bien, a sa participation. Et nous l'avons encore, et je le relis, quand il est dit au verset 31, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Ouais. Qui a préparé? On le sait, on l'a évoqué. Il y a le Père. Il y a le Fils. Et il y a le Saint-Esprit. On appelle ça, vous ne trouverez pas le mot dans la Bible, il n'existe pas. C'est le mot Trinité. Ou on peut le décliner de cette manière, avec l'adjectif, le Dieu trinitaire. C'est-à-dire, un en trois. Ou trois en un. Un être tripartite. En trois parties. Et vous êtes aussi, nous sommes des êtres tripartites. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Beaucoup de nos semblables savent qu'ils ont un corps. Ça, c'est sûr, ils l'entretiennent, ils le... Enfin bon, ils font ce que vous voulez. Hein? Le corps, la gymnastique, etc., etc., hein. Bon, je dis pas que c'est, voilà. Et puis, l'âme. Bon, il y en a qui s'envolent un petit peu, la poésie, la musique, la composition, etc., etc. Il sait qu'il a une âme. Mais sait-il qu'il a un esprit qui doit, finalement, évouer à la gloire réelle et à la dimension éternelle. C'est ça. Donc, le Père, Créateur, le Fils, nous pourrions dire celui qui va finalement, eh bien là, accomplir parfaitement la volonté de Dieu et le Saint-Esprit. On va définir tout cela d'ici quelques instants. Et il y a un bénéficiaire dans tout cela, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il y en a un quatrième. Eh bien, c'est chacun d'entre nous, c'est l'homme. Parce que la Bible a été écrite pas pour les anges. Elle n'a pas été écrite pour je ne sais quelle mélodie céleste qui traverserait l'univers et qui continuera à chanter pour l'éternité. Non, c'est un livre d'amour. La Bible, je dis bien d'amour, un livre qui parle de salut, un livre qui parle de pardon, et tout ça dans une direction bien particulière, c'est cette misérable créature que nous sommes, l'homme, l'humanité, et c'est lui le qui en a le profit, c'est lui qui en a le bénéfice. Quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y en a qui se posent la question depuis pas mal de temps, c'est en quelque sorte, eh bien, ils sont tous les trois de la même nature et de la même essence, mais leur action est différente. C'est comme ça qu'on peut comprendre. Ah oui, la même nature, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu. Et puis, ils sont différents en action, le Père créateur, concepteur du plan, et puis le Fils, celui qui va être la victime. L'exécuteur en quelque sorte et le Saint-Esprit qui va être le révélateur. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Et tout ça, c'est le salut. Ça va? Me suis donné de la peine hein, quand même. Hein. Oh, pour un dernier jour quand même. Hein. Vous m'épargnez pas. Hein. Mais je me suis régalé. Parce que quand je fais des messages, je les fais pour vous hein, quand même. Hein. Je prépare la cuisine pour vous. Mais quelquefois, je me mets à table avant vous. mais j'ai toujours faim. Et tant que j'aurai faim, ça sera bon pour tout le monde. Alors ne coupez pas l'appétit. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, le salut vient de Dieu. Ça, on le sait. Et il vient de Dieu seul. C'est pas la peine d'inventer des religions et de fabriquer, de bricoler toutes sortes de choses en disant, bah oui, moi je crois que Dieu c'est ceci, cela, etc. Non, on laisse ça tomber parce que la parole de Dieu est très claire. Finalement, il faut rester sur tout ça. Et, comme le salut vient de Dieu, il a conçu une idée géniale pour sauver les âmes. C'est génial ce qui nous arrive. Hein, on le dit, les jeunes le disent, c'est génial. Hein, voilà, c'est formidable. Comment? Comment? Par la grâce. Par quel moyen? La foi. Le fondement, le sacrifice de Jésus-Christ. Ça va? Ah, c'est pas trop compliqué pour l'instant. Hein? Mais peut-être que les chrétiens ont besoin d'entendre encore les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Oui. Alors, je le répète, hein. Cette idée géniale, elle repose sur trois éléments. Le comment, par la grâce. Le moyen, par la foi. Le fondement, sacrifice de Jésus-Christ. À notre place, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Ou le Fils de Dieu d'abord et le Fils de l'homme après, naturellement. Il y a un plan en trois étapes, mes frères et sœurs. Il y a l'état. Nous étions perdus. Le résultat, nous sommes sauvés. Vrai? Ouais. Et le don, c'est la vie éternelle. Jusqu'ici, c'est quand même pas de la haute théologie. Bon. Un plan en trois étapes, l'état, le résultat et le don. On va voir d'abord, si vous voulez, le rôle de Dieu, le rôle du Père, le plan du Père. Depuis les temps immémoriaux, il a conçu dans cette idée géniale que les hommes, pour parvenir à ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas encore, mais ça va venir, deux alliances. Il y a la première alliance et la deuxième alliance. Et ces alliances ont été consignées dans deux testaments. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On est bien d'accord. Dans le Ancien Testament, il y a quelque chose qui ressort à toutes les pages, c'est la loi. Tu feras, tu ne feras pas ci, hein, voilà, etc., etc. Ce sont des commandements, ce sont des devoirs et des obligations. Mais la loi, elle n'applique pas obligatoirement le cœur. C'est ça le problème. Parce qu'on peut faire les choses avec beaucoup de scrupulosité dans la loi, mais si le cœur n'y est pas, votre cœur est éloigné de moi, dira Jésus, hein, pour des zélateurs de la loi. Et puis le Nouveau Testament, alors à ce moment-là, ça change tout. C'est pas que Dieu s'est trompé, hein. C'est que l'un prépare l'autre. La loi, le Nouveau Testament, c'est un pédagogue, c'est un professeur, c'est un instituteur. Il est en train de préparer les cœurs sur le plan de la conscience morale des hommes. Et puis, viendra le temps de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, ça rime, hein, quand on met les deux mots. La loi d'un côté et la foi de l'autre. Et la foi, c'est plus le devoir. C'est plus l'obligation. Mais si cette obligation est devoir, c'est une obligation et un devoir du cœur spontané où on fait les choses avec bonheur et plaisir. C'est pour ça que mes frères chrétiens qui vivaient, comme moi, dans la Nouvelle Alliance, alors, il faut que vous compreniez que finalement, le Seigneur vous a sauvés par amour et que nous arrêtions de nous plaindre parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Soyez heureux. Oui, je suis heureux. Car Jésus m'a sauvé. Non, mais ça vous fait rire. Mais dans la pratique de tous les jours. La pratique de tous les jours. Et c'est ça, la question. La question est là. La loi et la foi. Dois-je rappeler que nous sommes sous le régime maintenant de la foi? Et ce que je fais pour le Seigneur, je le fais, non plus je le vois comme un devoir, comme une obligation, comme une peine. Je ne m'appelle pas Simon de Cyrène, qui porte la croix, qui l'a portée péniblement. Mais aujourd'hui, si je porte ma croix, je la porte joyeusement. Ouais, Parce que tout le poids, c'est Jésus qui l'a pris, c'est pas moi. Les mobiles du Père. Pourquoi Dieu a-t-il fait ce plan génial, cette pensée géniale, le mobile? Pourquoi Dieu l'a-t-il fait, l'a-t-il conçu? Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Pour au moins trois choses, on pourra en mettre d'autres. Premièrement, le mobile de l'amour. Il nous aime, nous qui ne méritions pas et qui ne méritons toujours pas d'être aimés. La deuxième, c'est que l'homme perdu dans ses erreurs, dans sa confusion, dans l'inintelligence de la dimension spirituelle, Dieu lui donne la vérité, qu'il y a encore des hommes religieux qui la retiennent captive. L'amour, la vérité, et puis la justice. La justice, c'est quoi? C'est que parce que Dieu est juste, que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal, et que le mal est présent dans toute la terre. Il y a eu déjà l'épisode de Noé, et puis voilà. Et comme les yeux de Dieu ils sont saints, ils sont trop purs pour voir le mal, il fallait que la justice, parce que Dieu est avant tout un Dieu de justice. Mais au-dessus de la justice de Dieu et supérieurement à la justice, il y a l'amour. Et donc il y a que l'amour va accomplir la justice pour que nous, les bénéficiaires, Dieu nous regarde d'un regard favorable. On appelle ça la propitiation. Comme finalement dans la construction du propitiatoire, dans la tente d'assignation et dans le temple de Jérusalem. Je veux pas être trop compliqué. Dieu le Père se révèle à ses créatures, toutes, les uns et les autres. Il y a un plan de réconciliation. Réconciliation, c'est mettre deux ennemis, deux adversaires, des personnes antagonistes, les mettre d'accord. C'est ça la question. On appelle ça la réconciliation. Et nous sommes réconciliés par une personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est parce que je crois en Jésus que maintenant mon Père Céleste, mon Créateur d'abord, et mon Père Céleste qui est devenu mon Père Céleste, eh bien, je suis réconcilié. Mais moi, j'y suis pour rien. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit, m'a tapé sur l'épaule un jour, il m'a dit, dis donc Alain, faut peut-être mettre tes choses en règle, hein. Prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est... Hein? Réconciliation. Ensuite, après la réconciliation, tentative, plan de réconciliation, par la médiation de Jésus-Christ, il y a eu celui de la justification. Dieu me voyait comme un homme perdu, pécheur, etc., etc. Et comme j'ai accepté Jésus-Christ, il ne me regarde plus de la même manière, il ne regarde plus à moi, à mon péché, il regarde à Jésus qui a porté mon péché. Et je suis justifié. Vous vous rendez compte? Mes frères et sœurs qui croyez en le Seigneur, alors réjouissez-vous. Vous êtes justifiés parce que vous croyez simplement en Jésus-Christ. C'est le fait de croire en Jésus-Christ que vous êtes justifiés et réconciliés. C'est formidable. Quelqu'un a payé à ma place. Et vous savez qu'après la réconciliation, premier pas. Après, là, je disais également la justification, il y a l'adoption. Moi, j'étais un enfant sans père, sans parent. Pas dans la nature, mais... Et... Dieu a dit, ben maintenant, puisque tu crois en Jésus-Christ, il t'a justifié, il t'a réconcilié, nous sommes réconciliés ensemble, et bien maintenant il t'adopte. Je suis un enfant adopté, vous rendez compte? J'ai trouvé une maison. J'ai trouvé des frères et des sœurs. Avant j'étais tout seul dans le monde. Il y a une prophétie qui nous dit, tu es seul. Mais non! Si tu penses que tu es seul, tu es seul. Mais si tu penses que Jésus, eh bien, t'a fait rentrer dans sa famille, mais tu n'es plus seul, réjouis-toi. Jusqu'à quand vous dirai-je de vous réjouir? Ouais, nous sommes des enfants adoptés, tout simplement. Deux mots, tout autant, sur le rôle du Fils. Le Père, sa pensée géniale de salut, on l'a déjà vu à travers quelques éléments. Alors, le rôle du Fils, Fils de Dieu qui a pris un nom quand il était sur la terre, Fils de l'homme. Identification à notre humanité. Ce que nous avons dit dernièrement, la kénose, c'est Philippiens, Chapitre 2, il s'est dépouillé. La kénose, c'est ça, ce dépouillement. Rôle du Fils. Alors, le rôle du Fils, c'est ce que nous n'avons jamais pu faire avec la loi. C'est ce que Jésus a accompli, l'obéissance totale à la volonté de Dieu, l'obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Aucun homme ne peut le faire. Jésus l'a fait, tout simplement. Et cette obéissance a été jusqu'à mourir. On peut obéir dans bien des choses qui nous coûte pas, des choses qui nous coûtent, des choses qui demandent des sacrifices, mais Dieu ne demande pas de sacrifice, puisque de toute façon, quelqu'un l'a fait à notre place. Mais, aller jusqu'à mourir, l'obéissance de Dieu à la volonté de Dieu, jusqu'à donner sa vie. Alors, vous connaissez Jean 3,16, naturellement, hein. Et là, il y a encore trois aspects du plan de Dieu qui découlent. Il y a d'abord l'expiation. Expier, c'est finalement, eh bien, payer à la place de. Si vous lisez ces livres d'un grand intérêt et que nous dévorons tous, le Lévitique ou Livre des Nombres. Ouais. Et vous voyez les sacrifices, vous voyez les bœufs, les pigeons, etc., etc. Waouh. Eh oui, mais c'était l'ombre des choses à venir. On est d'accord. Mais il y en a un qui a dit, moi, tout ça, c'est fini. Le système du Lévitique, le système, tous ces traditions, enfin, c'était pas seulement des traditions, c'était quand même des réalités, c'est Dieu qui les avait quand même instaurées. Et toutes ces choses qui gardaient quand même, où l'âme humaine restait quand même dans la culpabilité, hein. Parce que les grands jours du pardon, ou les grands jours de fête en Israël, tout le monde était content, on disait, voilà, Dieu m'a pardonné, le lendemain matin, on recommençait, hein. C'est ce que les religions chrétiennes font encore, hein. Enfin, certaines religions chrétiennes. Religion. Ouais. Alors, tout ça, ça passe et ça revient et ça n'en finit pas, hein. Alors, l'expiation. C'est-à-dire que quelqu'un a donné sa vie. Parce que c'est ça, il faut mourir pour donner la vie. Voilà. L'expiation. On explique l'expiation par la rédemption. C'est-à-dire qu'il y a un rachat. Voilà. Quelqu'un Très bien, vous parlez bien. Ah ouais, puis vous m'aidez beaucoup. Si quelqu'un me ravit, du mot ravisseur, et que on envoie à ma famille, qui est fort riche, une demande de rançon, alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse mourir Alain, ou alors à ce moment-là, on va payer une rançon. Eh bien, figurez-vous, que Dieu n'a pas pris le parti de nous voir entre les mains de l'ennemi, du voleur, du ravisseur. Vous le connaissez celui-là? Eh bien, il a payé, non pas avec des espèces sonnantes et trébuchantes, mais il a payé en donnant Jésus qui a versé son sang. Et nous avons été rachetés à un grand prix. Et ça s'est passé, expiation, rédemption. Et on a pu parler après d'une autre doctrine biblique qui s'appelle la substitution, à ma place. Et la justice de Dieu a été contentée. La loi a été accomplie. Et aujourd'hui, quand Dieu nous voit les uns et les autres, ou que le diable essaie de nous cribler d'accusations, parce qu'il est l'accusateur des frères, et qu'il nous dit, tiens, celui-ci, etc., parce que quelquefois, ça nous passe pas loin des cheveux, hein. Je peux vous dire, quelquefois, on passe des sacrés moments, notre tête est mise à prix, hein, à quelque niveau que ce soit. Dans le ministère et autres, eh bien, on s'aperçoit que Dieu dit non, arrête, c'est l'histoire de Job. La volonté permissive de Dieu, elle s'arrête là où Dieu définit sa souveraineté. Tu n'y touches pas. Voilà. Et on passe des sales quarts d'heure, hein. Il y a des fois, on a quelques souvenirs. Je peux vous dire qu'on a envie de les oublier, hein. Mais la substitution, quelqu'un a payé pour toi, il est libre maintenant, nous sommes comme à la sortie d'un tribunal, il y a un non-lieu pour nous, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que finalement, eh bien, il n'y a rien du tout. Et vous savez que le fils, dans son plan, c'est mourir, c'est l'expiation, c'est la rédemption, c'est la substitution, c'est l'intercession. Vous avez lu dans la Bible qu'il intercède pour nous maintenant? Parce qu'il n'est plus sur la terre, il est au ciel, et il prie pour chacun d'entre nous. Nous, on a besoin de le prier. On n'a pas besoin de prier pour lui. Dans la perfection. Mais par contre, et il y a là des cohortes d'anges. Il nous est dit que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Alors, c'est pas les anges qui nous sauvent, hein, pas du tout. Hein. Intercession, c'est le plan de Dieu. Oui, je le rappelle. Le plan du Père, réconciliation. Ensuite, il y a la justification, l'adoption, celle du Fils, le plan, l'expiation, la rédemption, la substitution, l'intercession, donc la médiation en quelque sorte. La troisième étape, qui c'est le troisième intervenant, qui c'est? C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, 1, 2, 3. Hein? Le rôle et les actions du Saint-Esprit dans le plan génial de Dieu. Eh bien, je dirais, bon, avec les mots que je peux trouver, hein, c'est l'agent. C'est pas une chose, c'est pas un instrument. Quand on parle du Saint-Esprit, quelquefois on chante l'instrument et tout ça. Non, L'instrument, c'est une chose. C'est impropre et c'est inadapté. Je préfère le mot agent parce que agent, c'est quelqu'un de vivant. C'est la vie. Un agent d'application et de réalisation de la pensée du Père, de l'acte du Fils, et qui nous est donné aujourd'hui. Je vous enverrai le Consolateur. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché, parce que les hommes sont incrédules. Il nous convainc de justice, parce que Jésus a payé à notre place, et il nous convainc de jugement, parce que le diable a été vaincu. Qu'est-ce que vous voulez de plus, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on pourrait pas se réjouir de ça? Vous allez me dire, je me suis pas trop tracassé les méninges, parce que finalement, c'est très simple ce que je suis en train de dire, et pourtant ce sont des grandes vérités que nous avons besoin de nous rafraîchir. Enfin, moi, à mon sens. Et qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Quand un homme confesse ses péchés, qu'il se repent, il se convertit, c'est-à-dire qu'il va changer de direction. Et là commence une œuvre, enfin c'était avant, mais une œuvre particulière qui symbolise le Saint-Esprit, il nous régénère. Il y a une régénération immédiate, ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Tout n'est pas fini, ça commence. Attendez, hein? Attendez. Oui, parce qu'à partir du moment où vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel et que vous avez dit maintenant c'est Jésus mon sauveur et mon Seigneur, le Saint-Esprit nous a convaincus pour cela, et il commence, notre mentalité va changer, notre façon d'être, notre façon de parler, c'est eh bien déjà les prémices de la régénération, et eh bien il y a ensuite la sanctification, régénération immédiate et sanctification sur le temps de notre vie. C'est pour ça que il y a déjà la vie de Jésus en moi et en vous. Mais ça va pas se faire comme ça, c'est pas parce que on a accepté Jésus que finalement tout est fini et que nous sommes des saints. Ah ouais. Moi, mon auréole, elle me tombe sur les épaules, hein, elle est trop grande, hein. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Eh oui. Alors, régénération sanctifie. Dans un but ultime, mes frères et sœurs, le but ultime, c'est de nous amener à la glorification, c'est-à-dire d'être à la ressemblance de Jésus. Est-ce que vous avez envie d'être comme Jésus? Ah ouais, parce que quelquefois on se bagarre, on dit, mais Seigneur, j'y arriverai jamais. Tu te rends compte? Je te fais des promesses. C'est demain, les promesses, hein. Hein? Alors, bon, je te fais des promesses, et puis je m'aperçois que finalement, je veux, mais je peux pas. C'est Romains, chapitre 7. Comment ça se passe pour vous? Vous voulez, et puis vous y arrivez? Ben, vous me donnerez votre recette, parce que moi, ça fait 40 ans que j'essaie, et puis, il y a des fois, ça marche. Mais quand je veux faire des efforts pour que ça marche pas. Par contre, quand je me confie dans le Seigneur, et ben, je vois que ça se fait. Je suis vraiment un bizarre personnage. Eh oui. Un but ultime, c'est de nous amener à la glorification, comme Paul l'écrira, l'immortalité, l'incorruptibilité, la perfection céleste. Voilà notre route. Nous soupirons, nous peinons, nous pleurons, nous avons des larmes sur cette terre. Mais attendez, mes frères et sœurs, ça va pas durer longtemps. C'est pas que je vous souhaite de mourir le plus vite possible. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous aurons après une autre dimension où il nous est dit que toute larme disparaîtra. On craint le ciel. Non, on devrait plutôt craindre la terre et... Eh oui. Alors, la ressemblance, le plan du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les trois sont coordonnés. On appelle ça en langage concomitant. Ça marche ensemble. Comprenez? En totale harmonie. La Bible est un livre qui nous parle du cœur de Dieu et le cœur de Dieu étant une harmonie d'amour. Vous avez remarqué qu'il y a des livres poétiques dans la Bible? Ah, il faut savoir les lire, hein, il faut savoir les décorer. Inspiré par le Saint-Esprit, on découvre des choses. Christ et l'Église, déjà dans le livre des Cantiques des Cantiques. Hein. Messieurs, pensez-y avec votre épouse, vous verrez. Elle va être contente. Je suis noire et je suis belle. Hein. Vous connaissez, c'est le début du Cantique des Cantiques. Hein. Parce que l'Église, elle peut être noire, mais Dieu la voit belle. Parce qu'il lui a pardonné ses péchés. Ça va? Je peux continuer un petit peu? Vous me le dites, hein, parce que... Il n'y a pas de problème. Bon. Le quatrième intervenant. Ah! Vous savez qui c'est? Il s'appelle Pierre, Paul, Jacques, Diane, Léon, voilà, Carole. Ouais? Bon. Alors, c'est l'homme et sa part. la part de Père, la part du Fils et la part du Saint-Esprit est maintenant notre part. Vous allez voir, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Je voudrais vous dire tout de suite, c'est que les religions ont vraiment compliqué les choses. Mais pas possible, hein. Là où le chemin était droit, ils ont fait un labyrinthe. On sait de quoi on parle. D'abord, la part de l'homme, c'est qu'il n'y a aucune œuvre à faire. Oui, on le sait. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Donc on a compris. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que cette histoire dans le christianisme, le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme où il faut faire alors que Jésus a déjà tout fait? C'est vraiment une monstruosité de prétendre que Jésus n'avait rien fait, que Jésus n'a rien fait puisque c'est l'homme qui le fait. Donc aucune œuvre n'est réclamée. À la croix, les dernières paroles de Jésus, c'est « tout est accompli ». Eh ben, c'est comme s'il n'avait rien dit. Quand on voit les méandres, quand on voit les complexités, les mortifications, les restrictions imposées ou qu'on s'impose à travers des jeûnes, à travers toutes sortes de choses, mais alors, on a compris quelque chose? Non, rien du tout. Le tout est accompli. Un jour, il y a une question qui est posée à Jésus. Oh, c'était pas toujours ses amis qui posaient des questions, mais ils avaient besoin de savoir où en était Jésus, mais ils n'ont pas été déçus du voyage à chaque fois, hein. Vous avez remarqué les pharisiens, ils repartaient souvent un petit peu la tête, ouais, parce que bon, se confronter à Jésus, et c'est l'omniscience de Dieu, Jésus, hein, et c'est tout. Hein. Et cette question, c'est au chapitre 6, et au verset 28, moi je trouve que c'est formidable, ils sont venus lui dire, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui que Dieu a envoyé. Et comme ils étaient têtus, ils ont ajouté, quel miracle fais-tu donc pour que nous croyions? Rien compris! Mais rien compris! Et mes frères et sœurs, il faut sortir de cette idée que, faut sortir de cette idée quand on prie le Seigneur en disant, Seigneur, montre-moi, 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 parce que je veux voir, je veux comprendre. C'est totalement faux! Si tu crois, tu verras. Et c'est pas si tu vois, tu croiras. Je crois que je suis pas trop compliqué ce matin quand même. Hein. Non? Gratuité absolue, mes frères et sœurs. Ouais, c'est gratuit. Ouais. Là, vous allez arriver dans les sols, ça sera presque gratuit. 70%, 80%, profitez-en. N'allez pas prendre tout et sans payer, hein, parce que là, moi, j'ai pas envie de vous récupérer au commissariat. Et de dire c'est des membres de l'église évangélique de Saint-Nazaire. Hein. Moi, j'irai pas jusqu'à en prison pour vous, que vous, soyez, vous sortiez. Hein. Gratuité absolue. Sinon, la foi vivante et active. C'est ça ce que j'ai besoin dans ma vie, dans mon cœur. Seigneur, donne-moi de déborder d'une foi vivante. Pas une foi morte, pas une foi religieuse, pas une foi de superstition, pas une foi qui veut toucher, qui veut sentir pour pouvoir eh bien évoluer. Ça, c'est complètement faux. Hein. Une foi active qui saisit ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Parce que, il y en a un qui l'a dit, c'est Pierre, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole! Et frères et sœurs, exercez-vous à faire marcher votre foi sur la parole de Dieu. Il l'a dit, il l'a promis, il l'a fait et il va le faire encore. Eh oui, c'est ça. Et les résultats sont évidents dans notre vie de tout cela. C'est d'abord des certitudes. On a des certitudes, des assurances. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dit que nous sommes des enfants de Dieu et que nous pouvons appeler Père Abba. Certitude. Un chrétien qui n'a pas de certitude, c'est qu'il y a encore quelque chose, un chemin à faire important. Il a confiance dans l'invisible, c'est-à-dire dans ce qu'il ne voit pas. Voilà. Et puis, il a des convictions établies, sans les coller brutalement, légalement, ou d'une manière légaliste dans le nez des autres. Parce que quelquefois, il y en a qui disent, moi j'ai des convictions, hein, elles sont, voilà, il n'y a pas de problème. Ben alors dites donc, faut voir un peu comment il les distribue. Hein. Paf! C'est la parole de Dieu, c'est ceci, c'est cela. Non mais c'est vrai. C'est pas, ça manque d'amour, hein. Parce que c'est pas parce qu'on a des convictions établies et vraiment chevillées à la parole de Dieu et dans le Seigneur qu'on doit les coller aux autres. Vous savez que l'Église, il y a des bébés, il y a des petits-enfants, il y a des adolescents. Je parle sur le plan spirituel, hein. Et puis il y en a qui sont plus avancés. Alors faut se respecter les uns les autres, hein. Moi, j'aime pas le légalisme. Parce que on le voit chez les pharisiens. Et les pharisiens, je peux vous dire, qu'ils en ont fait voir à Jésus. Mais Jésus leur a bien répondu. Ça, c'est clair. Donc, c'est un engagement d'une bonne conscience aussi chez nous. J'étais ceci, j'étais un menteur, j'étais un voleur, j'étais un buveur, etc. Et maintenant, depuis j'ai... La conversion, c'est ça, hein, en quelque sorte. J'ai changé. Le Seigneur m'a changé. La régénération. Hein. Voilà. Et puis, il y a des dispositions spirituelles. Avant, quand je connaissais pas le Seigneur, eh bien, moi, j'aimais bien tout ce qui était croustillant, tout ça, un peu les choses de la chair, de la vie, etc., etc. C'est pas que quelquefois j'en ai pas envie parce que je reste encore très fragile, mais néanmoins, j'ai des aspirations spirituelles qui surpassent les charnelles. Ah, c'est une lutte. L'homme converti, il change de vie, il change d'avis. Et, pour ce faire, il y a un chemin à emprunter. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, à vos Bibles, hein, mais vous allez me dire, mais pendant 15 siècles, c'est-à-dire entre la période de l'ascension de Jésus jusqu'à l'invention de l'imprimerie du Camembert, c'était pas un livre. Quand on dit « lis ta Bible », bah, ils n'étaient pas très aidés, hein, à l'époque. Hein. « Lis ta Bible », il y avait que les summums de la religion qui pouvait avoir des bibles avec des enluminures, etc., etc., mais elles étaient cachées dans la bibliothèque et fermées à double clé, hein. C'était ce que l'on entend. Et on se passait le message de génération en génération pendant 15 siècles. Vous vous rendez compte? Et nous avons une chance formidable que Dieu a suscité des capacités chez l'homme pour pouvoir écrire, populariser, avoir une Bible. Vous avez combien chacun de Bibles chez vous? En combien de tomes? Voilà. Des petites, des grandes, etc., etc. Vous savez que nous avons un privilège extraordinaire. Et vous savez que c'est bien de savoir lire, hein? L'éducation. Mais pendant des siècles et des siècles, ce n'était qu'une parole orale. Parce que les moyens, les gens n'avaient pas la capacité de lire, ils n'avaient pas la capacité d'acheter une Bible, c'était quelque chose. Extraordinaire. Et l'Église se plaindrait dans le 21e siècle de ne pas en avoir assez. M'excuserait, hein. Mais soyons heureux d'être parvenus à la fin des siècles parce que Jésus revient bientôt, hein. Il revient. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend est suivi de la repentance. Ça, c'est la part de l'homme. Je me repens parce que je suis touché profondément. J'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre les autres, etc., etc. C'est pas un regret ni un remords, c'est une conviction intérieure qui me fait pleurer parce que je me dégoûte, je me sens sale. Voilà la repentance. Puis on pourrait dire bien d'autres choses, hein. Et puis il y a la confession. La confession, c'est de parler à Dieu. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu dis ta vie. Ici, on n'a pas encore installé des petites cabines de confession. Peut-être qu'au moment où je partirai à la retraite, j'ouvrirai peut-être un petit cabinet. Et je vous remettrai que j'étais content d'être avec vous pendant 15 ans. Je m'en tire bien. Ça, c'est la confession. Après, il y a la conversion. On en a parlé. Après, c'est un engagement. Et comment on se fait l'engagement chez un homme qui suit Jésus-Christ? Le premier commandement qui nous est donné, les deux qui existent, c'est la Sainte Cène, et c'est l'engagement dans les eaux du baptême, qui est une confession publique que maintenant, publiquement, les hommes, les femmes, mes frères et mes sœurs, savent que j'appartiens à Jésus-Christ. Le baptême, c'est une importance. On n'est pas là pour prêcher le baptême, on est là pour prêcher la conversion, mais après, mes frères et sœurs qui sont baptisés, qui se font baptiser comme il y a 15 jours, eh bien, ils se disent, ou tout haut, moi maintenant je n'ai plus honte d'être chrétien, je n'ai pas honte de l'évangile, de celui qui est venu me sauver. Ça, c'est la part encore de l'homme. Et on pourrait dire que la repentance, c'est la réponse de l'homme à l'appel de Dieu. Et, simultanément, eh bien, il y a là, finalement, la nouvelle naissance. Oui, c'est tout simplement la réponse de Dieu au choix de l'homme. La repentance, la conversion, la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit parce que là, c'est l'équipement. L'équipement sous deux aspects. Vous recevrez de la puissance pour faire l'œuvre d'évangélisation, pour être des témoins, pour être mes ambassadeurs jusque aux extrémités de la terre. Mais il y a le deuxième qu'il faut pas oublier, c'est le fruit. La ressemblance avec Jésus. Parce que il y a des gens qui ont des dons, mais qui n'ont pas les fruits. Il y a des gens qui ont les fruits, mais qui n'ont pas les dons. C'est les deux. Nouvelle naissance, changement, transformation à la ressemblance de Jésus, et puis la puissance pour pouvoir être mes témoins. C'est une expérience unique, intérieure, la nouvelle naissance. C'est la réponse de Dieu au choix de l'homme. Et ensuite, le baptême du Saint-Esprit, qui marque la réponse, finalement. Et puis, le plan, il est complet à ce moment-là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et mon positionnement à moi. Je termine maintenant. Ainsi, le plan de salut est accompli. J'ai été très bref, j'ai été très court, même si ça vous a paru long, mais toujours est-il que j'essaie de concentrer un peu les choses. Et c'est un plan, donc, qui est accompli, il est fonctionnel, il est opérationnel. Tant que l'Église restera sur ses donnes, l'Église sera vivante. Et elle engendrera. Il y aura de nouveaux fils et filles, il y aura de nouveaux engagements, il y aura de nouveaux baptêmes. Et l'Église, qu'elle soit petite ou grande, ça n'a pas d'importance. Mais il y a l'œuvre qui se fait parce que on est sur un plan, c'est les fondements qui sont là. Et quand on commence à démonter les fondements, quand on commence à inventer toutes sortes de choses, inspirées par des faux docteurs et toutes sortes de choses, ça ne marchera jamais, ça. On sort du plan. Cependant, le grand mal qui existe et qui existe dans notre monde, j'espère pas chez nous, c'est l'incrédulité. Dieu aurait-il réellement dit ? Et Dieu aurait-il fait un plan ? Dieu aurait-il vaincu le diable ? Dieu aurait-il voulu sauver par amour l'homme ? C'est aurait-il réellement dit ? C'est l'incrédulité. Selon Ésaïe, j'ai trouvé ce passage parce que il me semble qu'il est explicite et vous le connaissez naturellement. C'est quelque chose que nous avons l'habitude d'ouvrir. Ésaïe 52, vous savez, quand il est dit cette parole. Qui a cru à ceux qui étaient annoncés et qui a reconnu le bras de l'Éternel ? C'est pas de l'incrédulité, ça ? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel à travers les miracles de Jésus ? Tout ce qui jaillit du message évangélique, miracles, prodiges, résurrection des morts, l'eau changée en vin, la multiplication des pains, le bras de l'Éternel, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Et avant, il est dit, mais qui a cru à ce qui était annoncé ? Faut dire qu'il y en a pas beaucoup qui ont dit au crâne parce que ils n'y ont pas cru puisqu'ils ont crucifié Jésus. C'est l'incrédulité, mes frères et sœurs. Le message, le plan de Dieu, repose sur la foi pour nous extraire de cet atavisme qui est l'incrédulité, tout simplement. Et le refus coupable de l'homme, exprimé par l'apôtre Paul, parce que c'était bien Paul, il a écrit des choses qui sont évidentes pour nous, Quand il dira, par exemple, et ça vous le savez aussi, regardez, la colère de Dieu, à défaut de salut, parce que le plan de Dieu, c'est que vous soyez sauvés, que nous soyons sauvés, que le monde soit sauvé, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toutes les impiétés et les injustices. C'est-à-dire que finalement, malgré que Dieu ait parlé, on n'y a prêté aucune attention. Enfin, les hommes se sont détournés, et ces hommes qui retiennent la vérité captive, ou la déformer, ou la transformer, l'altérer, pour que ça ressemble à la vérité, mais ce n'est plus la vérité. C'est comme le Canada Dry. C'est vrai ? Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, ce que j'ai brièvement rappelé ce matin, le plan du Père, du Fils, du Saint-Esprit et la part de l'homme. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour les hommes. Tous. Il y en a qui vont croire, il y en a qui vont pas croire. Dieu l'aurait fait connaître, parce qu'en effet, il y a deux grands livres. Il y a le livre de la nature qui nous dit que Dieu est créateur, il est merveilleux, celui de l'univers et de l'infini. Du petit comme du grand. Du macro et du micro. Pas celui-ci. Alors, sa puissance éternelle et sa divinité, on en a parlé ce matin, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et vous savez ce qui est écrit ? Ils sont donc inexcusables. On est sauvé par la foi dans les promesses de Dieu de salut et à travers, eh bien, Jésus-Christ. Ils sont donc inexcusables, tout simplement. L'œuvre de Dieu est grandiose, mes frères et sœurs. Qui peut le dire ? Mais elle est silencieuse. Et c'est parce que, justement, les gens disent, eh bien, si Dieu, tu existes, tu descends du ciel, tu bouleverses la terre, tu fais souffler les volcans, tu fais des tsunamis et tout ça. Ils aimeraient bien voir ce Dieu tellement impétueux et en colère, non? L'œuvre, elle est silencieuse parce qu'elle se diffuse dans le temps et dans l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter, elle a combien de milliers d'années? Et même, on compte plus d'ailleurs. L'histoire des hommes est tumultueuse. Elle, par contre, en comparaison, elle est tumultueuse, elle est tapageuse, elle est agitée et elle est bruyante à en juger. Dieu a inventé toutes sortes de choses. Il a inventé le bruit. Un avion, ça fait du bruit. Pas qu'il est à 10 000 mètres, mais quand il passe au-dessus de votre maison. Un train en marche à toute vitesse, il est bruyant. La marche effrénée des humains sur la terre, tout est bruit. Tout est mouvement, etc. Tout est fracas. Celle de Dieu est silence. Il est silence, mais elle est constante, cette œuvre. Elle est pénétrante, mais l'on n'y prend pas garde. Quand vous entendez un avion, vous regardez un train, vous vous écartez, etc., etc. Mais l'on n'y prend qu'un. L'œuvre conjuguée du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le vol d'un oiseau. C'est la croissance d'une fleur. Ah! J'entends la fleur pousser. C'est le pouls dans mes veines. Je ne voudrais pas vous traumatiser, mais quand vous les entendez trop fort, vous allez chez le cardiologue. C'est la guérison miraculeuse d'un malade. C'est l'œuvre silencieuse de Dieu et à travers tous les temps. C'est l'amour qui naît au fond du cœur d'un homme et d'une femme. Alors là, le cœur, il bat. Je t'aime. Ah, j'entends. Ouais. C'est un silence majestueux, c'est un silence glorieux. C'est le silence majestueux et glorieux du salut. Préparé, salut que tu as préparé devant les peuples. C'est comme ça que nous avons commencé tout à l'heure, à retenir simplement. Le souverain bien de Dieu ne fait pas de bruit. Or, le bruit ne fait pas toujours de bien. C'est pas en criant, c'est pas en vociférant. C'est pas en essayant de faire ceci et cela. Adieu si tu existes! Alors, tu descends et tu descends de ta croix. Par exemple. Ouais. Dieu parle. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, que je les ai résolues dans des temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent pour nous. Chacun d'entre nous, merci Seigneur, nous nous prosternons devant toi, nous t'adorons. La part du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qu'elle s'accomplisse dans ton cœur, qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Et je dirais tout simplement, mon frère et ma sœur, peut-être l'ami qui nous rejoint ce matin, crois-le. Crois-le, tout simplement. Des choses que tu as préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on n'a pas entendues, des choses que, ouais, mais que Dieu a préparées, ça c'est dixit Paul, 1 Corinthiens, chapitre 2. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens maintenant, nous sommes sur la route. bénissons et glorifions le Seigneur. Mes amis qui avons entendu, qui entendaient pour la première fois cet appel de Dieu, Dieu vous appelle ce matin pour que vous puissiez vous lever et de dire maintenant, le Saint-Esprit me convainc à l'intérieur de moi de cet amour infini. C'est silencieux, mais ça parle plus fort que toute autre chose. On prie quelques instants ? Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions. Seigneur, moi je me réjouis, j'ai pas tout compris, je suis loin d'avoir compris. Je n'ai même pas compris grand-chose. Mais une chose, Seigneur, que je sais, c'est que Jésus est mon Sauveur, il est mon Seigneur. Et que tout cela, c'est pas une aventure individuelle, c'est parce qu'il y a eu le Père qui a fait un plan génial. C'est parce que Jésus, tu as pris ma place à la croix du calvaire. Et pas n'importe quelle place. Mourir pour que je vive. Je te rends grâce également parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a diffusé la bonne nouvelle et qui la diffuse encore. Il est la réalisation de tout ce qui a été fait précédemment pour venir jusqu'aux hommes, pour venir jusqu'à moi, pour venir vers le petit, vers le grand, le riche et le pauvre. Et le langage du Saint-Esprit, c'est tout simplement Dieu t'appelle. Alors merci Jésus. Merci pour ta grâce, dans le nom merveilleux de notre Sauveur commun.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.